Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs, je vous souhaite un très agréable sabbat. Le message que je vous présente aujourd'hui est la traduction d'un sermon prononcé par M. David Johnson, membre du comité de la doctrine au sein de l'Église de Dieu, Association mondiale. Le sermon a été prononcé le 30 janvier 2016. Son titre est « La définition de la grâce ». En 1937, un théologien luthérien allemand, Dietrich Bonhoeffer, était de plus en plus contrarié concernant une idée hérétique qui commençait à se répandre en Allemagne dans l'Église luthérienne. Et il était tellement contrarié à ce sujet qu'il a écrit et publié un livre considéré aujourd'hui comme l'un des 20 principaux ouvrages du XXe siècle. Son titre officiel en français est « Vivre en disciple ». Le prix de la grâce. La vie personnelle de Bonhoeffer a été une expérience tragique. Il a été l'un des tout premiers en Allemagne à s'élever publiquement contre Adolf Hitler et contre les nazis. Mais alors qu'il avait quitté l'Allemagne, il a décidé d'y retourner. Il a été arrêté et emprisonné. En avril 1945, il a été exécuté sur ordre personnel d'Adolf Hitler. Deux semaines plus tard, le camp dans lequel il était emprisonné était libéré par les Alliés. Après quoi, encore deux semaines plus tard, l'Allemagne capitulait. Mais c'était trop tard pour pouvoir sauver Bonhoeffer. Dans son livre, Dietrich Bonhoeffer a inventé une expression qui est toujours utilisée de nos jours pour décrire une forme populaire ou particulière d'enseignement évangélique. Le terme en question et la grâce bon marché, ce qu'il a défini comme étant la prédication du pardon sans l'exigence de la repentance. La grâce bon marché, c'est la grâce sans le fait de vivre en tant que disciple, la grâce sans la croix, la grâce sans Jésus-Christ. L'accent est mis sur les bénéfices du christianisme sans prendre en compte le prix qui y est associé. C'est pourquoi il a choisi l'expression qualificative « bon marché » pour décrire cette forme de grâce. D'autres auteurs ont décrit ce concept en utilisant d'autres mots. La grâce bon marché signifie la justification du péché sans la justification du pécheur. En d'autres termes, cela reviendrait à enlever la culpabilité du péché sans exiger le moindre changement concernant la façon de vivre du pécheur ou de la pécheresse. La grâce en elle-même produit tout, c'est ce qu'ils disent. Et donc, tout peut rester comme avant. La grâce bon marché, c'est la grâce que nous nous accordons à nous-mêmes, une description intéressante. La grâce bon marché, c'est la grâce que nous nous accordons à nous-mêmes, que nous pensons devoir recevoir. Nous n'aurions pas besoin du pardon de Dieu, puisque nous serions tout à fait capables de nous pardonner nous-mêmes. Bonhoeffer et ceux qui étaient d'accord avec lui avait en fait raison de rejeter cette idée de grâce bon marché. Mais comme bien souvent, les efforts humains produisent des choix qui passent d'un extrême à l'autre. Et dans le cas présent, en créant une fausse dichotomie, ou encore une fausse distinction au sein du salut. Il croyait qu'il y a deux façons distinctes de comprendre le salut, la loi ou la grâce. Que le salut peut venir par les œuvres, un mot-clé qui pour eux signifie obéir à la loi, ou bien que le salut peut venir par la grâce. Et comme les Écritures disent clairement que le salut vient de la grâce, ils en ont tiré la conclusion que l'obéissance à la loi était inutile et qu'on pourrait la mettre de côté. Cette idée a motivé M. Armstrong à écrire l'un de ses articles les plus importants, à mon avis, un article concernant la loi et la grâce, comparé à la loi ou la grâce. Et dans cet article, il a montré l'interdépendance entre les deux, entre la loi et la grâce. Parce que nous croyons que l'obéissance aux lois de Dieu est essentielle pour que nous puissions recevoir le don de la grâce, nous avons été souvent accusés de croire que nous pourrions mériter notre salut par notre obéissance. Ceux d'entre nous qui se souviennent des années passées, vers le milieu des années 90, alors que l'Église avançait au sein d'un séisme de changement de doctrine, se rappellent sans doute que nous avions même certains dirigeants dans l'Église nous disant que c'est ce que nous avions enseigné. Et je me souviens que bon nombre parmi nous disaient « Mais je n'ai jamais enseigné une chose pareille, je n'ai jamais cru une telle chose, et jamais personne ne m'a enseigné cela dans l'Église de Dieu. » Mais quoi qu'il en soit, ces dirigeants ont continué de dire que c'était ce en quoi nous croyions. Et il y a ceux qui continuent de nous accuser aujourd'hui au sujet de ces croyances. Dans les années 80 et 90, il y a eu une variante de ce concept de grâce bon marché qui est devenue très populaire au sein de la communauté évangélique, en particulier avec des pasteurs de méga-églises comme Rick Warren ou Joel Osteen. Cet enseignement est appelé parfois le christianisme charnel. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de cette expression, mais c'est elle qui est utilisée, le christianisme charnel. D'où est-ce que cela vient ? Eh bien, l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe, les chrétiens de Corinthe, et au chapitre 3, il leur est dit « Vous êtes charnels ». Et c'est pourquoi ils ont pris ce passage et ils ont dit « Vous voyez, il est possible d'être chrétien et d'être encore charnel en même temps. » Autrement dit, un christianisme charnel serait possible. L'idée de christianisme charnel enseigne essentiellement qu'aussi longtemps que nous faisons une profession de foi en Jésus-Christ, alors nous sommes sauvés et qu'il n'y aurait aucune obéissance immédiate au commandement de Jésus et des apôtres qui pourrait être exigée. C'est l'idée selon laquelle nous pouvons avoir Jésus-Christ pour sauveur, mais non pas pour Seigneur. En d'autres termes, il peut être notre sauveur sans être celui qui règne sur nous. Les personnes qui se font les avocats du christianisme charnel ou de la grâce gratuite, comme on l'appelle parfois, font la distinction entre l'appel pour le salut et l'appel à la vie de disciple. Bien sûr, je comprends bien que vous ne pensez pas probablement pas de cette façon, mais je suis en train de vous présenter les choses en quelles ils croient. Je vous suis en train de vous présenter ce qu'ils disent. Ils disent, oui, nous sommes appelés pour le salut, et c'est quelque chose de merveilleux, mais parmi ceux qui sont appelés au salut, tous ne sont pas appelés à vivre en tant que disciples, à vivre, en fait, d'une façon différente. Et donc, ils séparent complètement ces deux concepts. Cette façon de voir les choses a poussé un autre théologien célèbre, John R.W. Stott, à écrire ces mots. Il dit « Le paysage chrétien est parsemé de débris de tours abandonnées, à demi construites, les ruines de ceux qui ont commencé à construire et qui ont été incapables de terminer. Car des milliers de personnes ignorent encore l'avertissement du Christ et s'engagent à le suivre sans s'arrêter d'abord pour réfléchir au prix à payer. » Le résultat, c'est le grand scandale de la chrétienté aujourd'hui, le soi-disant christianisme nominal. Dans les pays où la civilisation chrétienne s'est répandue, un grand nombre de personnes se sont couvertes d'un vernis décent, mais très mince, finalement, de christianisme. Ils se sont permis d'être quelque peu impliqués, assez en tout cas pour être respectables, mais pas assez pour être mal à l'aise. Leur religion est un grand coussin moelleux. Il les protège des durs désagréments de la vie et en même temps, ils changent de place et de forme pour se conformer à leur convenance. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai pris tout ce temps pour vous exposer ce que certains théologiens ont écrit. Après tout, ni vous ni moi ne basons nos croyances sur ce que certains théologiens croient être vrai. Nous croyons depuis longtemps que la vérité de Dieu est disponible pour nous, non pas parce que nous sommes de bons théologiens amateurs, mais parce que Dieu a choisi de nous la révéler. Nous croyons ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 13 et verset 11. Matthieu chapitre 13 verset 11, dans lequel Jésus-Christ nous dit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné ». Et nous pouvons ajouter, du moins pas encore. Nous croyons ce qu'il dit quand il déclare que nous comprenons parce que nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles ont été divinement bénis. Mais la confusion fondamentale qui a conduit aux problèmes et aux soucis rencontrés par ces théologiens peut tout aussi bien nous influencer. Ce problème fondamental provient de la mauvaise compréhension de la définition exacte de l'un des mots les plus communément employés dans les Écritures, tout particulièrement dans le Nouveau Testament. Et ce mot, c'est le mot « grâce ». Que comprenez-vous à propos du mot « grâce » ? Alors que je commençais à rédiger ce sermon, je me suis demandé, tiens, c'est un sujet important, ce serait une bonne chose de pouvoir l'aborder. Mais je me disais aussi, en quoi les frères et sœurs pourraient-ils bien être vraiment attentifs à ce message ? Quelle valeur particulière pourraient-ils avoir, au point que certains parmi vous reconnaissent, oui, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur ce sujet ? Et je pense que c'est une question honnête, et je ne vous reprocherai pas de la poser. C'est une question légitime, et j'espère que tous les orateurs ont l'occasion de se poser cette question. Mais pourquoi les gens voudraient-ils vraiment m'entendre parler à propos de ce sujet ? C'est une bonne question, que chacun d'entre nous peut garder présent à l'esprit. Mais je pense qu'il y a quelques bonnes raisons. Déjà pour commencer, ce mot est utilisé près de 130 fois, rien que dans le Nouveau Testament. Il doit donc, de fait, revêtir une certaine importance. En plus, l'apôtre Pierre nous dit que nous sommes censés croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est assez facile de comprendre comment on peut croître dans la connaissance. Mais comment peut-on croître dans la grâce ? Souvent, nous avons défini la grâce comme étant un pardon immérité. Bien, mais comment puis-je croître en cela ? De toute façon, le pardon ne vient pas de moi, il vient de Dieu. Donc je ne peux pas vraiment influencer cette chose, je ne peux pas influencer cela. Alors, est-ce que cela veut dire que je dois croître dans le manque de mérite ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? En tant que chrétien, il m'est dit que je dois croître dans la grâce. Comment m'y prendre pour y arriver ? Qu'est-ce que cela veut dire, croître dans la grâce ? Dans l'Église du premier siècle, Paul, l'apôtre, était confronté à bon nombre de chrétiens qui avaient reçu une éducation juive très stricte. Et certains parmi eux, non pas tous, mais certains, bataillaient encore avec l'idée selon laquelle ils pouvaient assainir leur relation avec Dieu en gardant diligemment la loi de Dieu. Paul a enseigné que garder la loi est important, c'est approprié, c'est essentiel, mais aussi que tout être humain ne parviendrait jamais à garder la loi d'une façon parfaite, telle qu'elle l'exige, et se trouve donc en conséquence passible de la peine de mort à cause du péché. La phrase qu'il utilise pour exprimer le fait que nous pouvons essayer de nous justifier nous-mêmes devant Dieu en observant la loi était incluse dans le concept véhiculé par l'expression « sous la loi ». Bien entendu, l'expression « être sous la loi » véhicule aussi certainement le concept d'être sous la pénalité de la loi. Mais cela concerne aussi autre chose, la motivation. En essayant d'expliquer ce concept aux frères et sœurs de Rome, l'apôtre Paul a martelé une autre expression importante pour insister sur le contraste entre notre vie chrétienne et le concept consistant à nous justifier nous-mêmes en nous reposant sur nos propres efforts. Cette expression est « sous la grâce ». Cette expression n'est rencontrée que deux fois dans le Nouveau Testament, dans deux versets consécutifs que nous lirons dans un moment. Mais que faut-il comprendre dans cette expression ? En tant que chrétien, il nous est dit que nous vivons sous la grâce. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et quel est le rapport avec nos responsabilités envers Dieu et les uns envers les autres ? Commençons par lire ce passage dans Romains chapitre 6 et voyons ces deux versets consécutifs. C'est un sujet qui est abordé en fait un peu plus tôt dans la lettre. Le chapitre 6 de l'épître aux Romains est un chapitre fascinant. Dans Romains chapitre 6, Paul commence par poser cette question. « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Dit d'une autre façon, l'idée qui est discutée ici, c'est que, puisque Dieu nous a sauvés par sa grâce, Il nous pardonne. Et nous recevons un pardon immérité de la part de Dieu. Et donc, puisque c'est la grâce de Dieu qui nous justifie, est-ce que tout va bien si nous continuons de pécher? Car après tout, Dieu possède une grâce illimitée. Donc, est-ce que tout va bien si nous continuons de vivre de la façon dont nous vivions auparavant? Paul utilise une expression ici. Je ne sais pas si Pierre ne l'utilise pas non plus, mais c'est ici Paul qui parle, qui l'utilise, dans Romains chapitre 6, verset 2. Romains chapitre 6, verset 2. Il dit « loin de là ». Et le grec original est « meganoito ». Rassurez-vous, cela ne fera pas partie de votre examen d'entrée dans le royaume de Dieu. Paul utilise ici cette expression plusieurs fois, et en fait, c'est la plus forte expression utilisable dans la langue grecque du premier siècle pour dire quelque chose comme « vraiment, mais quelle idée stupide ». Selon notre façon moderne de parler, Paul nous dit « mais quelle idée ridicule ! Non, vous ne pouvez pas faire une telle chose ». Verset 14, nous lisons « car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce ». Et verset 15, « quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là ? Quoi donc ? Meganoito ». Autrement dit, n'y pensez même pas. L'idée dans le verset 1 est la suivante. Est-ce que nous pouvons continuer de pécher ? Et Paul répond, mais quelle idée stupide ! Ensuite, la question survient au verset 14. Bon, je ne peux plus continuer de vivre dans le péché, mais est-ce que ça va si je pèche une fois de temps en temps ? Et à nouveau, la réponse est, non, ça ne peut pas être acceptable de pécher une fois de temps en temps. Mais que veut dire être sous la grâce? Et que contient exactement ce concept? Quelle que soit la signification donnée à cette expression, et ces deux versets sont les seuls de la Bible qui la contiennent, il est clair à partir de ce passage qu'elle ne signifie pas que le péché, la transgression de la loi de Dieu, le fait de vivre comme si la loi n'existait pas, est une façon acceptable de vivre. C'est de toute évidence exclu en raison des mots que nous lisons ici. Une personne qui vit sous la grâce est clairement quelqu'un qui vit en étant guidé, conseillé et dirigé par la loi de Dieu. En conséquence, comment cette personne pourrait-elle être différente de celle qui vit sous la loi? Nous verrons cela un peu plus loin. Mais je pense que, pour comprendre cela, je pense que nous devons prendre un peu de temps pour comprendre, tâcher de comprendre le sens du mot « grâce ». De quoi parlons-nous au juste ? Le mot « grâce » est comme l'un de ces autres mots que nous trouvons dans les Écritures, que nous écoutons, tout en ayant une idée vague au sujet de leur signification. Mais nous serions bien en mal de pouvoir donner facilement une définition. Ce mot rentre dans la même catégorie que des mots comme « saint », « juste », « justifié », « sanctifié ». Si vous deviez donner une définition de ces mots, que diriez-vous ? Avez-vous une compréhension claire, immédiate de leur sens ? Ce sont des mots importants, des mots que nous trouvons dans les Écritures. Il faut que nous comprenions leur sens. Mais il semble que bien souvent, nous avons une sorte de compréhension passagère, et au final, celle-ci reste insuffisante. Donc, quand vous rencontrez un mot de cette catégorie dans vos études des Écritures, vous le survolez probablement, rapidement, et vous continuez en essayant de saisir la signification du reste de la phrase. Et je comprends cela. Nous faisons la même chose avec les lieux géographiques. Par exemple, si je vous demande quel est le nom de l'endroit où le roi Saül et Jonathan sont morts. Bon, je ne vais pas faire un sondage maintenant pour savoir combien de personnes connaissent le nom de cet endroit. Mais la Bible nous le révèle. Elle nous donne l'endroit exact où cela s'est produit. Cet endroit se trouve au mont Gilboa. Bon, et qu'est-ce que cela nous dit ? Probablement pas grand-chose. Vous n'avez sans doute jamais vu le mont Gilboa. Cela semble être tout au plus une sorte de son qui ne veut pas dire grand-chose. Et quand vous lisez dans les Écritures, et je suis sûr que vous en avez eu l'occasion, l'histoire du roi Saül et de Jonathan, son fils et de leur bataille finale contre les Philistins quand ils sont tués tous les deux par leurs ennemis. Vous avez probablement survolé le nom de cet endroit et vous ne vous êtes pas souvenu, sans doute, que cela s'était passé ici, parce que cela n'avait aucun sens particulier pour vous. Encore une fois, beaucoup d'entre nous en sont passés par là. Je me souviens, il y a plusieurs années, quand nous étions en voyage en Palestine et que nous roulions entre Jérusalem et Jéricho, tout à coup, notre guide annonce « Oh, ici, sur la droite, se trouve l'endroit du bon Samaritain. » Et je me souviens avoir pensé en moi-même « Mais pour quelle raison ont-ils décidé de le placer dans cet endroit ?» Et puis, après, quand vous prenez votre Bible un peu plus tard, vous lisez le texte qui précise que l'endroit se trouve bien sur la route entre Jérusalem et Jéricho. Bon, je n'avais pas réalisé que cela se trouvait à cet endroit. Et c'est l'un des bénéfices que vous pouvez retirer quand vous visitez ces endroits. Ils deviennent vraiment réels pour vous. Mais ce que je remarque simplement, c'est que lorsque vous rencontrez un mot dont vous ne comprenez pas le sens complet, mais dont vous comprenez vaguement la signification, vous survolez probablement ce mot et vous n'y pensez pas plus que ça. Si vous allez sur le site internet Vie, Espoir et Vérité, alors non, ce n'est pas une publicité que je suis en train de faire ou qu'on m'a demandé de faire, Monsieur Bennett et moi, mais je vais sur ce site internet moi-même de temps en temps. Et mettons, vous lisez un article qui contient un certain verset. Si vous faites promener votre curseur à l'écran, la petite flèche à l'endroit de cette référence biblique, le verset apparaît sur le site Vie, Espoir et Vérité. Et c'est vraiment utile, parce qu'au cours de votre lecture, la référence d'un verset ne vous dit pas forcément grand-chose. Mais quand vous pointez votre curseur sur le verset, le texte surgit tout à coup, et là vous comprenez le sens du passage. Sans cet outil, vous devriez probablement arrêter la lecture de l'article, vérifier le passage dans votre Bible, et finalement être interrompu dans votre cheminement de pensée. Or souvent, quand nous lisons un article, nous ne prenons pas le temps de vérifier le verset. Souvent, nous voulons poursuivre la lecture et la terminer. Ce curseur, cet outil qui ouvre automatiquement la lecture d'un passage, est très important pour nous. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est justement créer une sorte de curseur mental, de sorte que, à chaque fois que vous rencontrez le mot « grâce », hop, une définition vous vient à l'esprit. Et de sorte que vous puissiez dire « Oh, voilà le sens de ce mot ». Il y a aussi une autre façon de parvenir à cela, c'est juste une métaphore que j'aimerais employer. Je pense qu'il existe des mots-clés, des mots-clés qui permettent d'ouvrir un coffre au trésor. Bien sûr, vous pouvez continuer la lecture sans ouvrir le coffre, tout en obtenant une certaine compréhension. Mais si vous prenez la clé et que vous ouvrez le coffre au trésor, cela va vous donner accès à une richesse de signification et de compréhension que vous ne pourriez pas obtenir autrement. J'aimerais donc faire du mot « grâce » l'objet d'un de ces curseurs, de l'un de ces messages qui surgit dans votre esprit à chaque fois que vous lirez ce mot dans l'un des 150 et quelques passages bibliques dans lesquels il se trouve. La grâce a souvent été définie comme étant un pardon immérité. Bien, le pardon immérité représente certainement une partie importante du concept de grâce. Mais je suggérerais qu'il s'agit d'une description incomplète du mot « grâce » tel que nous le concevons. Si je peux en tirer une analogie, imaginons que vous rencontriez quelqu'un qui n'a jamais vu d'automobile, vivant dans une partie du monde où, pour quelque raison que ce soit, il n'a jamais vu à quoi une automobile peut ressembler. Et il faut que vous expliquiez à cette personne ce qu'est une automobile. Vous lui montrez une photo d'une Lamborghini. Bon, rien qu'en jetant un coup d'œil en direction du parking, il semble que vous ayez tous laissé vos Lamborghini à la maison aujourd'hui. Mais est-ce qu'une Lamborghini est bien la représentation appropriée d'une automobile? Eh bien, c'est certainement une automobile. Il est impossible de dire que la photo ne représente pas une automobile, mais ce n'est pas non plus une définition complète. Et ce n'est pas non plus le genre de voiture que ni vous ni moi utilisons tous les jours. Encore une fois, l'expression « pardon immérité » est une partie importante du concept de grâce, et nous verrons où cette partie s'insère dans ce concept. Mais cela ne représente pas la vision complète, et il est important que nous saisissions cette vision. Le mot grec, qui est généralement traduit par grâce, est charis. C-H-A-R-I-S. Charis. Le mot représente en général quelque chose qui est donné, en insistant sur la gentillesse et l'abondance du donneur, et franchement, sans insister sur le don lui-même, ni sur le receveur de ce don. La définition qui m'aide le plus est celle qui dit que la grâce est donnée de par la bonté du donateur, sans le moindre égard envers la dignité du receveur. Je vais répéter cela, et je demanderai aux étudiants de garder cela en réserve pour leur examen. La définition du mot grâce est un don donné de par la bonté du donneur ou du donateur, sans le moindre égard envers la dignité du receveur ou du récipiendaire. Un don donné de par la bonté du donneur, sans le moindre égard envers la dignité du receveur. La grâce de Dieu dirige notre attention vers la bonté de Dieu, innée, intrinsèque, qu'il nous a offert. Cela n'implique pas nécessairement que le receveur est méchant ou indigne, mais quant aux conditions du receveur, elles sont insignifiantes en regard du don de la grâce. Certains des mots connexes peuvent certainement nous aider à améliorer notre compréhension. Comme je le disais, le mot grec traduit par grâce est charis. Le verbe charizomai signifie donner gracieusement, gratuitement et généreusement. Le verbe charituo peut faire penser au verbe chérir, qui utilise la même racine. Il signifie montrer de la gentillesse envers quelqu'un, ce qui implique une grâce de la part de celui qui montre une telle gentillesse. L'accent est mis sur la qualité de caractère de celui qui donne. Le verbe charou signifie se réjouir. Il y a donc également une joie dans cette façon de donner. Et le mot charisma, ce mot est familier en français, on parle de quelqu'un ayant du charisme. Le mot charisma fait référence à un don offert de cette façon et il met l'accent sur la relation amicale à la source de cet acte de gentillesse. Donc, tous ces mots se réfèrent à un donateur doux et généreux. L'intention de ce mot est bien de mettre l'accent sur cet aspect. Maintenant, comment cette famille de mots est-elle utilisée au fur et à mesure de notre étude des Écritures ? Je pourrais certainement présenter aujourd'hui un sermon basé sur une concordance, et vous pourriez continuer l'étude avec une longue liste de versets comprenant ce mot. Mais vous n'avez pas vraiment besoin de ce genre de liste venant de ma part. Vous avez déjà la possibilité de mener ce travail de par vous-même, et ceux parmi vous qui sont familiers avec le travail biblique au moyen d'une concordance affectionnent particulièrement de travailler avec une Bible électronique, par exemple la Bible online. Vous trouverez ce mot utilisé près de 150 fois, 20 fois dans l'Ancien Testament et le reste dans le Nouveau. C'est une étude intéressante qui en vaut la peine, mais ce que j'espère accomplir en clarifiant la définition basique de la grâce, c'est que lorsque nous rencontrons le mot grâce et que nous l'étudions, ce ne soit plus un simple mot de remplissage que nous survolons sans réellement comprendre ce qu'il veut bien pouvoir dire. Mais que cela ajoute une profondeur à notre connaissance de ce qui a été préservé dans les Écritures pour nous. Voilà ce qu'il faudrait. Ainsi, en gardant à présent à l'esprit la définition basique de la grâce, un don offert de par la bonté du donateur, sans la moindre considération envers la dignité du receveur. Examinons maintenant certains exemples dans lesquels la grâce joue un rôle dans nos vies et voyons ce que cela signifie vraiment pour nous. Avez-vous déjà entendu une jeune personne, ou peut-être nous-mêmes, dans une de ces périodes de la vie ponctuées par les angoisses de l'adolescence, dire ceci « Oh, après tout, je n'ai pas demandé à naître ». Et bien sûr, quand l'un d'entre nous dit cela, il parle légèrement, avec frivolité. Personne, évidemment, n'a jamais demandé à naître. Et je suis reconnaissant à cet égard, parce que, vous savez, je n'aimerais pas atteindre l'âge de 25 ans pour tout d'un coup entendre cette voix qui dirait « Allons-y, il est plus que l'heure maintenant, je vais t'aider à naître maintenant ». Ça, c'est vraiment une situation bizarre, n'est-ce pas ? Non, jamais personne n'a demandé à naître. Mais quand nous pensons à cela, nous finissons par reconnaître que tous les êtres humains existent en vertu de la grâce de Dieu. Personne n'a jamais demandé à exister. Personne n'a jamais demandé à venir au monde. Personne n'a jamais demandé à bénéficier de cet événement formidable que procure notre appartenance à l'humanité, à l'existence humaine. Tout cela a été rendu possible parce que Dieu a choisi de nous donner l'existence humaine. Le monde dans lequel nous vivons, parfaitement conçu pour pouvoir soutenir la vie, est un don venu de Dieu et fait à l'humanité. Nous y pensons de cette façon. Dieu a dit que, depuis le commencement, l'homme a été créé à son image, à sa ressemblance, et pour accomplir cela, il a créé ce fabuleux. Et il nous l'a donné en tant que don, un don gratuit, et bien entendu, complètement immérité. Mais il l'a fait. Il a voulu nous le donner. La terre et tout ce qu'elle contient existe parce que Dieu l'a voulu. Les Écritures nous disent ici, dans l'Épître aux Hébreux, que, et le mot est littéralement utilisé ici, que Dieu a amené toutes choses à leur existence, à partir de rien. Que Dieu a ordonné que toutes ces choses viennent à leur existence, sachant qu'auparavant, il n'y avait rien. Mais maintenant, elles existent. Et pas simplement en raison d'une loi physique ou d'un événement qui a eu lieu, mais parce que Dieu a fait le choix d'amener toutes ces choses à leur existence. Et il soutient cette existence jusqu'à ce jour. Il soutient tout ce qui concerne ce monde, les lois qui gouvernent la création, qui nous permettent de vivre et de fonctionner, sont créés et soutenus par Dieu, par sa grâce. Encore une fois, nous prenons tellement ces choses pour acquises, parce que ces choses, finalement, ont toujours été là pour nous. Au fur et à mesure de notre existence, nous ne nous étonnons plus de la loi de la gravitation comme un don de Dieu, et je suis très heureux que nous ayons cette loi, car sinon je serais en train de vous parler là quelque part en hauteur, et vous flotteriez aussi, vous, de même. Tous nous bénéficions de cette loi de la gravitation. Pourquoi fonctionne-t-elle? Parce que Dieu fait en sorte qu'elle fonctionne. Et quand nous contemplons l'existence humaine, nous en venons à réaliser que nous autres, en tant qu'êtres humains, nous sommes différents, nous sommes uniques, et nous ne sommes pas la forme supérieure parmi les espèces du règne animal. Nous sommes une création unique de Dieu. Et Dieu nous le révèle au moyen de ce qu'il a placé en nous, l'esprit, cette essence spirituelle que Dieu appelle l'esprit dans l'homme. La semaine dernière, je réfléchissais sur ce message. Combien de fois Dieu nous a-t-il révélé, à la fois dans les Écritures et en étant membre de l'Église, qu'il nous a donné une véritable et profonde compréhension qui change vraiment et complètement notre façon d'aborder les choses. Je dirais certainement que la notion de l'esprit dans l'homme est l'une de ses profondes compréhensions. Plus vous méditez sur ce que fait l'esprit, sur ce que c'est que d'être une personne individuelle, consciente, capable de ressentir et de raisonner, une personne ayant la potentialité de devenir un membre de la famille de Dieu. Et c'est une chose monumentale. Comment fait-on pour amener toutes ces choses à l'existence à partir de rien? Et c'est une des raisons pour laquelle, comme nous l'avons déjà remarqué, et quand vous le lisez dans Zacharie chapitre 12 et verset 1, Zacharie chapitre 12 et le verset 1, alors que Zacharie est inspiré pour écrire au sujet de ce message donné au peuple, parlant de la raison pour laquelle Dieu a l'autorité pour le délivrer, pour délivrer ce message, sachant que vous qui écoutez, vous devriez écouter, vraiment, sincèrement, il y a trois choses dans ce premier verset. Le fait que c'est Dieu qui a créé l'immensité des cieux. C'est lui qui a créé la terre. Et ce n'est pas seulement la partie physique, mais c'est aussi la façon dont elle fonctionne, dont elle interagit avec toutes ces relations fonctionnant en symbiose et avec tout ce qui se met en place dans le monde physique. Donc Zacharie détaille les cieux, la grandeur des cieux. Mais laissez-moi commencer une petite digression ici. J'espère que je ne vais pas poser problème aux traducteurs aujourd'hui, parce que je n'ai pas mentionné cela dans les notes. Mais je lisais un ou deux exemples l'autre jour pour nous aider à bien saisir la grandeur de l'univers dans lequel nous vivons. L'un des exemples concernait les abeilles. Alors, en quoi est-ce que cet exemple pourrait illustrer l'immensité de l'univers ? Eh bien, l'auteur disait que s'il y avait 3 abeilles au-dessus des États-Unis, la densité des abeilles au-dessus des USA serait alors plus grande que la densité des étoiles dans l'univers. Les distances qui séparent les objets dans l'espace, le vide intersidéral, sont des grandeurs presque impossibles à comprendre pour nous. Une autre illustration de cette réalité nous dit que si vous prenez une de ces pailles qu'on utilise pour boire un soda, une boisson gazeuse, et qu'en pointant cette paille en direction de la zone la plus sombre du ciel la nuit que vous puissiez trouver, cette minuscule portion de l'univers que vous regardez au travers de cette paille, eh bien cette minuscule portion de l'univers comprend 10 000 galaxies. Encore une fois, quel Dieu peut faire cela ? Et il a une intention en accomplissant tout cela. Puis nous contemplons cette planète, la Terre, et toutes les choses qui interagissent les unes avec les autres. Plus nous comprenons les choses, plus nous sommes plongés dans l'étonnement et l'admiration face à la complexité et à la perfection de ce que nous observons autour de nous. Ensuite, la troisième chose que Zacharie mentionne, c'est le fait que Dieu a créé l'esprit qui réside dans l'homme. Quelle chose extraordinaire ! Quand vous faites une pause un moment pour y songer, vous comprenez à quel point c'est fantastique. Dieu a créé quelque chose et il nous l'a ensuite donné. Et cela fait absolument tout ce que nous sommes. Cela nous donne ce grand espoir pour l'avenir. Même sur le plan physique, chaque bouffée de l'air que nous respirons, chaque battement de notre cœur est le résultat de la grâce de Dieu. Un don donné avec la bonté du donneur, sans avoir égard envers la dignité du receveur. Chaque bénédiction que nous recevons, c'est le résultat de la grâce de Dieu qui illumine l'humanité en général et chacun d'entre nous en particulier. Mais quand nous apprenons ces choses, nous réalisons qu'il y a plus. En addition de tout cela, Dieu a planifié quelque chose de plus. Notez bien ce verset dans 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1. Nous allons étudier toute une série d'écritures aujourd'hui, et dans la plupart des cas, je ne citerai qu'un seul verset, sans le prendre en dehors de son contexte, et je pense que cela nous aide à nous concentrer sur cet aspect. Verset 9, 2 Timothée chapitre 1, verset 9. Paul parle de « nous » qui sommes appelés selon la puissance de Dieu, et il ajoute Dieu qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte vocation, ou un saint appel, comme le précise la Nouvelle Bible Second. Et voilà d'ailleurs ce mot « saint » qui lui aussi possède en lui-même une signification bien particulière. Paul continue et dit « non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels ». Cette grâce de Dieu, cette grâce qu'il manifeste envers nous, c'est quelque chose qui nous a été réservé avant même que le temps ne commence. Mais revenons quelques pages en arrière, dans 2 Corinthiens au chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8, et regardons le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Nous comprenons, et souvent nous faisons allusion au passage dans Philippiens chapitre 2, souvent appelé la doctrine de la kénose. Kénose avec un K, K et accent aigu N-O-S-E, qui vient du verbe grec kénoo, signifiant « se dépouiller de soi-même ». Ou Jésus-Christ, précisément, se dépouille de lui-même, c'est-à-dire il se dépouille de sa gloire, de ce qui fait de lui un membre de la famille divine éternelle au troisième ciel. C'est de tout cela dont il s'est dépouillé. Il n'a pas cessé d'être Dieu, mais il s'est dépouillé de toute la gloire et de toutes les merveilles que se trouvent dans ces lieux au troisième ciel, à la droite du trône de Dieu. Il s'est dépouillé, il a renoncé à toutes ces choses, il s'est appauvri lui-même. À cause de la grâce, à cause de ce don qu'il a donné, il a renoncé à ses richesses et il est devenu comme l'un des nôtres. Il est devenu pauvre. En comparaison du grand Dieu et de la gloire que Dieu possède, nous comprenons que nous ne possédons aucune gloire. Nous sommes très petits, insignifiants pour mille et une raisons. Dans l'un des cas, Dieu prononce cette phrase dans laquelle il dit que toute l'humanité est moins que rien. Que faut-il en penser quand vous réalisez que vous n'êtes que à 7 milliards de fois plus petit que rien? En quelque sorte, cela résume ce que nous sommes. Mais l'intention de Dieu n'a jamais été que nous restions ainsi. Son intention, c'est de partager avec nous sa propre gloire. C'est ce qui nous est dit ici. Je cite « Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Il veut partager avec nous une gloire que nous ne saurions imaginer. C'est ce qu'il a l'intention de faire pour nous. Tout cela à cause de la grâce, un don donné de par la bonté du donneur, sans le moindre égard envers la dignité du receveur. Ainsi donc, depuis le temps de notre première respiration, depuis notre existence, à son début, tout cela vient de la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu ne s'arrête pas là. Au fur et à mesure de notre maturation, dans notre vie, Dieu a pris en main notre vie. Que nous soyons passés par une croyance étrangère pour en venir à la vérité de Dieu, ou que vous ayez eu pour certains d'entre vous l'occasion d'apprendre cette vérité en ayant littéralement grandi en elle pendant toute votre vie. Chacune de ces deux expériences, en fait, est splendide. Et il existe un moment où Dieu intervient dans nos vies de façon différente. Quand nous avons commencé à voir ces choses et à les comprendre d'une autre façon. Parfois je dis aux étudiants que vous en soyez arrivés à ce point ou pas encore, je ne suis pas en train de juger à ce sujet. Mais il arrivera un moment dans votre vie où vous comprendrez que si vous voulez faire partie de la famille de Dieu, cette façon de vivre parmi toutes les autres est la chose la plus importante dans votre vie. Comment cela peut-il arriver? Dieu commence à intervenir dans nos vies. Il commence à ouvrir nos esprits à la compréhension des choses d'une façon différente, que nous n'avons jamais perçues auparavant. Et comme nous l'avons déjà dit, nous croyons que notre capacité à comprendre la vérité provient de la grâce de Dieu envers nous. Reportez-vous à Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, c'est un chapitre dans lequel on trouve plusieurs paraboles où Jésus-Christ explique en quoi consiste le royaume de Dieu. Et alors que nous lisons les paraboles, il donne celle-ci. Et arrivé au verset 10, il dit, plus exactement nous constatons que les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et Jésus leur répondit ceci « Parce qu'il vous a été donné, notez bien, on voit un don ici, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Vous et moi, nous comprenons ces choses parce que cela nous a été donné. Cela vous a-t-il été donné parce que vous en étiez digne? Si vous le pensez, s'il vous plaît, faites-moi le savoir, parce que ce n'est pas ainsi que je comprends les choses. Ça, je peux vous l'affirmer. Dieu nous a donné quelque chose que nous n'avions pas. Nous en étions complètement indignes. Il nous a donné cette compréhension. Pour ceux qui viennent d'un autre système de croyance, ou qui n'en ont jamais eu un, lorsque Dieu nous a appelés, vous vous rappelez sans doute être passé par plusieurs étapes, mais vous étiez tellement excité par cette connaissance que sans doute vous avez voulu la partager avec d'autres personnes, et vous vous êtes rendu compte à quel point ça marchait. Parce qu'en fait ça ne fonctionnait pas du tout. Ça ne marchait pas. Et pourquoi? Est-ce parce que vous ne saviez pas vous exprimer? Non. C'est parce que vous avez reçu un don, dont vous n'étiez pas digne, un don, donné de par la bonté du donneur, mais d'autres ne l'ont pas encore reçu. Verset 16. Matthieu chapitre 13, verset 16. Continuons la lecture. Jésus-Christ continue en disant « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » J'espère que c'est un concept continuellement gravé dans votre esprit et dans le mien. Pourquoi est-ce que je comprends? Parce que mes yeux et mes oreilles ont été bénis. Non pas en raison de quelque chose de particulier en moi, non pas en raison d'une grande sagesse ou d'une grande intelligence ou d'un pouvoir supérieur de compréhension, mais parce que c'est un don. Dieu a donné un don incroyable. Il a béni mes yeux pour lire ces phrases et les comprendre, et les vôtres aussi. Il a béni vos oreilles pour entendre et comprendre ce qui est écrit ici. Mais quel don fantastique! Un don que Dieu nous a donné. Mais alors, où cela nous conduit-il? Vous commencez à comprendre ce qu'il dit, et oh, c'est formidable, vous réalisez que vous ne saviez pas cette chose-là auparavant, ni celle-ci, et pour finalement en arriver à apprendre autre chose, vous réalisez que, eh bien maintenant, il vous faut changer. Maintenant, vous ne pouvez plus continuer à vivre de la façon dont vous viviez avant. Il vous faut changer. Et selon le domaine concerné, il se pourrait qu'il y ait une certaine lutte dans votre vie, dans votre esprit, jusqu'à ce que, finalement, vous en veniez à capituler devant Dieu. Et c'est alors que vous venez juste de commencer à vous repentir. Vous venez juste de vous repentir de vos péchés. Vous aviez une part à faire dans ce processus, mais ce que les Écritures nous montrent également, c'est que la repentance est un don de la part de Dieu. Il existe des millions de personnes qui se sont trouvées dans un état de désolation en raison de ce qu'ils ont fait. L'expression de leur tristesse, de leur regret, était certainement très sincère, et je ne compterai absolument pas cela comme étant une faute. Mais les Écritures nous disent aussi que la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Autrement dit, la tristesse selon Dieu n'est pas la repentance. Elle nous conduit à la repentance. Elle produit la repentance. Pour beaucoup de gens, la tristesse était l'ultime destination de leur regret. Beaucoup de gens, des gens bien, ne sont pas allés au-delà de cette étape. Pourquoi, vous, êtes-vous allé plus loin que le simple fait d'être triste à cause des choses que vous aviez faites? Eh bien, allons dans Romains chapitre 3, au verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Paul dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés. » Faisons une pause à cet endroit précis du verset. Je ne vais pas donner un sermon sur la justification, mais laissez-moi simplement en donner la signification. Être justifié signifie être rendu innocent des fautes du passé. Autrement dit, l'amende de votre culpabilité a été payée, la dette est effacée, et vous êtes rendu innocent concernant cette faute du passé. Il finit en disant « et ils sont gratuitement justifiés ». La marge de ma Bible dit « gratuitement », c'est-à-dire sans que cela vous coûte quoi que ce soit, sans intervention de votre part. Par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Comment en êtes-vous venu à vous repentir et être pardonné? Eh bien, par la grâce de Dieu. Le pardon immérité fait-il partie de la grâce de Dieu? Absolument! Et c'est une partie importante et centrale de la grâce de Dieu. Et nous ne la mettons jamais à part. Mais d'un autre côté, cela ne dépeint pas tous les aspects de la grâce. Et nous ne devons pas oublier cela non plus. Bien, alors, que se passe-t-il maintenant après cela? Vous avez été pardonné pour vos péchés, vous avez compris que Dieu vous a donné beaucoup de choses en raison de sa grâce, et donc, qu'en est-il maintenant? Existe-t-il un rôle continuel de la grâce dans votre vie, une fois que ce pardon immérité vous a été donné? La grâce de Dieu pour vous et moi ne s'arrête pas au pardon. Tous les jours, nous continuons d'être les récipiendaires, d'être les receveurs, autrement dit d'être les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Puisque nous sommes en ce moment dans l'Épître aux Romains, allons au chapitre 12. Romains chapitre 12. C'est un chapitre particulièrement fascinant. C'est l'un des chapitres les plus intéressants dans l'Épître aux Romains. Il est très pratique dans son expression et il va typiquement au cœur des idées exprimées. Romains chapitre 12 verset 6. Paul dit, « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Oh, Dieu ne cesse pas, après que nous nous soyons repentis, il continue de nous gratifier de ses dons. Et Paul commence ici à les décrire, et il dit que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. La prophétie pour laquelle il ne s'agit pas de prédire l'avenir, parler selon la prophétie, mais plutôt de parler sous l'inspiration divine. Et au verset suivant, Paul dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Il y a des gens qui sont simplement de merveilleux serviteurs. Vous ne les placerez pas forcément en face de la congrégation, parce que parler sous l'inspiration ne fait pas particulièrement partie de leur don. Mais ils servent merveilleusement. Ils permettent à la congrégation de fonctionner d'une façon telle que, sans eux, elle ne fonctionnerait pas aussi bien. Et quel don merveilleux! Paul continue en disant que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et ainsi de suite, Paul continue de décrire ses dons, mais ce qu'il convient de noter ici, c'est que Dieu distribue toute une variété de dons. Et nous n'avons pas tous les mêmes. Mais chaque don que vous avez, chaque don que j'ai, c'est le résultat de la grâce de Dieu. Dieu nous a donné quelque chose que nous n'avons pas mérité. Il nous a donné cette possibilité. Allons encore quelques pages plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Il y a beaucoup d'exemples dans lesquels Paul parle de la grâce qui lui a été donnée, mais voyons le verset 10 ici. 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 10. Il dit les mots suivants, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Autrement dit, je suis dans la position dans laquelle je me trouve, remplissant cette responsabilité maintenant, non pas parce que Paul est un grand personnage, nous ne savons pas qui Paul était vraiment, ne serait-ce que son apparence physique. Il n'y a aucun enregistrement qui nous révèle cela, aucun écrit, aucune trace. En revanche, il en existe un écrit datant de l'an 200 environ, 200 de notre ère, qui nous dit qu'il était petit, usé, qu'il avait les jambes arquées et qu'il était presque chauve. Alors il y a peut-être quelqu'un qui répond à cette description dans l'une des congrégations qui nous écoute. Aussi, je ne veux pas insister et mettre quelqu'un mal à l'aise, mais simplement, nous ne savons pas à qui ou à quoi Paul ressemblait. Mais ce que nous savons, c'est que quand il s'agit d'expliquer ce que c'est que d'être chrétien, personne après Jésus-Christ, à notre connaissance, n'a eu une influence comparable à celle de Paul. Et Paul se demandait, mais comment se fait-il que je suis capable de faire tout cela? Pourquoi? Parce que c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est la grâce qui m'a été donnée, j'ai reçu cette grâce, mais il ne s'arrête pas. Verset 10, il ne s'arrête pas là. Lisons le verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il dit que Dieu m'a donné cette grâce, et elle n'a pas été vaine. Le mot « vain » ici signifie qu'il n'y a pas de valeur durable, que cela ne dure pas. Il nous dit en d'autres termes que ce que Dieu m'a donné, eh bien, je ne l'ai pas gâché, je ne l'ai pas perdu. Elle n'a pas eu une valeur qui n'a pas duré. La grâce de Dieu a été utilisée et avec beaucoup de puissance. Finalement, les Écritures nous montrent que nous serons sauvés et que nous recevrons la vie éternelle dans la famille de Dieu par la grâce. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, et commençons au verset 5. Paul dit les mots suivants, « Nous qui étions morts par notre faute, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Mais reconnaissons qu'il y a maintenant un élément concernant le salut qui est encore à venir. Mais il y a aussi un élément concernant le salut qui s'est déjà réalisé. Vous avez été sauvés de vos péchés du passé, dont vous vous êtes repentis. Vous vous êtes repentis de ces péchés, le sacrifice de Jésus-Christ vous a été appliqué. Vous ne pourrez jamais plus, au grand jamais, souffrir à nouveau la peine de mort à cause de ces péchés-là, pour lesquels vous avez déjà été pardonnés. Maintenant, nous avons toujours à lutter avec les problèmes de chaque jour. Oui, nous devons tous le faire. Et en définitive, jusqu'à ce que nous soyons changés d'être physique en être spirituel, de sorte que nous ne pécherons plus jamais. Nous n'avons pas encore reçu l'ultime don complet du salut. Nous avons déjà reçu un montant colossal. Vous avez été sauvés de vos péchés du passé. Ils ne peuvent plus vous détruire. Ils ont été couverts par le sang de Jésus-Christ. C'est un concept gigantesque et c'est un soulagement merveilleux. Vous connaissez vos péchés du passé et je suis profondément reconnaissant que Dieu n'exige pas de nous que nous rendions publics nos péchés du passé. Je suis reconnaissant que Dieu n'écrive pas à mon sujet comme il a écrit au sujet du roi David ou de certains autres personnages bibliques. Je suis reconnaissant que mes péchés restent du domaine du privé, entre lui et moi. Mais ils sont effacés, ils sont pardonnés, tout comme les vôtres le sont par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés de ces péchés, mais continuons, verset 6. Nous avons été sauvés de ces péchés. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble, toujours par la grâce de Dieu, et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il nous est dit qu'en définitive, le reste de l'humanité regardera la grâce que Dieu a montrée envers vous et envers moi. Et nous glorifierons Dieu pour cela. Il recevra les honneurs et la gloire. De même, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 13, dit la chose suivante. Premier épître de Pierre, au chapitre 1 et au verset 13. Pierre dit, « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Pourquoi espérez-vous en une résurrection? Parce que le Dieu de grâce vous en a fait la promesse. Votre espérance est basée sur le fait que lorsque Jésus-Christ reviendra, vous recevrez un don, donné de par la bonté du donateur et pour laquelle votre dignité n'a joué aucun rôle. Un don donné par Dieu. C'est un concept vraiment important. Revenons à cette phrase dont nous parlions un peu plus tôt, dans l'épître aux Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6, consistant à être sous la loi et sous la grâce. L'intention n'est pas seulement de décrire une condition légale, mais aussi de décrire la motivation qui nous pousse à vouloir servir Dieu. L'intention de cette phrase n'est pas de se demander s'il faut obéir à Dieu ou pas, elle est d'expliquer pourquoi nous obéissons. Nous savons tous que lorsque nous sommes confrontés aux lois des hommes, il y a des moments où nous obéissons à ces lois parce que c'est la loi. Non pas parce que nous sommes nécessairement d'accord avec ces lois, non pas parce que nous voulons nécessairement leur obéir. Nous restons en deçà de certaines limitations de vitesse, non pas parce que nous sommes d'accord avec ces limitations, en particulier lorsque nous sommes en retard, mais nous sommes vraiment en désaccord avec elle. Mais nous obéissons parce que nous savons que c'est ce que la loi nous demande de faire, et parce que nous ne voulons pas en subir les conséquences, nous ne voulons pas subir les conséquences de notre désobéissance. Nous payons nos impôts de même, et je doute qu'il y en a parmi nous qui se disent « Oh, je suis vraiment content ». Je doute vraiment qu'il y en ait parmi nous qui se disent « Oh, je suis vraiment content de les payer. Dans quelques jours, ce sera la date légale et je pourrai enfin payer mes impôts cette année. » Mais nous le faisons parce que c'est la loi. Et nous devons le faire, nous le savons. Nous savons qu'il fut un temps, lorsque nous étions enfants, nous obéissions à nos parents. Nous obéissons à nos parents non pas parce que nous étions d'accord, mais parce que nous savions que il y aurait des conséquences, et nous savions le genre de conséquences que nous aurions à souffrir si nous ne faisions pas ce qui nous était commandé. Et nous voyons cela aussi chez nos propres enfants. Nous ne voulions pas souffrir ces conséquences. De même, nous nous assurons de ne pas nous mettre dans de telles situations. Vous savez, il y a des gens qui vivent leur vie religieuse de la même façon. Ils obéissent à Dieu, ils font ce que Dieu leur demande de faire, au moins jusqu'à un certain point. Mais pas vraiment parce qu'ils veulent le faire. Si Dieu n'avait pas exigé qu'ils le fassent, ils vivraient une vie complètement différente. C'est d'une certaine façon le principe que décrit la phrase « sous la loi ». Bien sûr, nous le savons, cette phrase contient également le principe très important qui consiste à être sous la pénalité de la loi, autrement dit, la peine de mort. Absolument. Elle décrit aussi une motivation par laquelle les gens obéissent parce que c'est ce que la loi demande. La phrase « sous la grâce » reconnaît que la pénalité pour le péché a été payée par la grâce de Dieu. C'est cet aspect de la grâce que nous appelons le pardon immérité. Et en plus, elle décrit l'attitude de la personne qui sert Dieu parce qu'il ou elle reconnaît la grande abondance de grâce que Dieu a montrée. Reconnaître cela nous place dans une position d'obligé. Nous sommes en quelque sorte, nous nous sentons obligés de servir fidèlement Dieu parce qu'il a tellement fait preuve de gentillesse envers nous. Bien, maintenant, quel est le sens de tout ceci pour nous aujourd'hui? Alors avançons un peu plus loin. Quand nous avons commencé avec les épîtres de Paul, l'une des choses que nous remarquons souvent, c'est que Paul parle de concepts théologiques au début de ses épîtres, et puis en continuant la lecture, vous réalisez qu'il utilise ces concepts en les appliquant de façon beaucoup plus pratique. Alors faisons la même chose, prenons ces concepts théologiques de la grâce, et voyons comment nous pouvons mettre cela en pratique dans notre vie quotidienne aujourd'hui. Nous parlions très souvent de deux façons de vivre, dans l'Église, une façon de vivre consistant à donner et l'autre consistant à recevoir ou à prendre. Et nous n'en parlons plus tellement aujourd'hui, bien que je crois que cela reste une partie de nos convictions. En tout cas, c'est certainement de cette façon que nous devrions raisonner. Ce thème de la vie centrée sur l'attitude consistant à donner, plutôt que celle consistant à prendre, est, à mon avis, l'une de ces vérités profondes que Dieu a révélées à l'Église il y a déjà plusieurs années. Ce concept affecte chaque moment de votre vie. Votre vision de la vie est complètement changée quand vous comprenez cela. Croître dans la grâce va avoir un impact sur nous au fur et à mesure de notre progression dans la vie. Ce que nous avons lu concernant la grâce nous montre la façon dont Dieu donne. Je vais citer une écriture, probablement beaucoup d'entre vous, vous la connaissez par cœur. C'est dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5. Paul dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Il nous dit ici que l'une des choses que nous sommes censés faire en tant que chrétiens, c'est de croître, de sorte que nos pensées soient alignées sur celles de Jésus-Christ. Cet esprit, ces pensées, sont celles qui sont censées être en nous. Cette pensée commune est supposée être notre pensée. Croître dans la grâce suppose que nous apprenions à penser comme Dieu pense, en vivant d'une manière qui consiste à donner. Comprenez bien que lorsque je parle de donner, je ne parle pas seulement des dons d'argent. Nous pouvons donner beaucoup d'autres choses. Nous donnons notre temps. Nous prenons le temps de nous soucier les uns des autres. Nous donnons ces choses parce que nous croyons que donner, c'est la bonne manière de vivre. Non pas parce que nous avons évalué celui ou celle qui reçoit nos dons et que nous jugeons qu'ils en sont dignes. Si nous vivons la façon de vivre qui consiste à donner, alors ce principe de grâce doit être au fondement de tous nos dons. Quelle que soit l'occasion, quel que soit l'aspect de notre vie au cours de laquelle nous avons l'occasion de donner. Vous donnez votre attention, vous donnez priorité dans vos préoccupations, vous donnez votre temps. Quoi que nous ayons à donner, il est très important que nous le fassions de la façon dont Dieu donne, c'est-à-dire librement, sans porter la moindre considération envers la dignité de celui qui reçoit ce don. Donner, parce que donner, c'est notre valeur centrale. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Pardon. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Pierre dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le mot traduit par diverses dans cette expression, des diverses grâces de Dieu, qualifie quelque chose qui exprime beaucoup de couleurs, beaucoup de variétés. Ici, cela veut dire que nous devons être de bons dispensateurs concernant toutes les manières différentes dont la grâce de Dieu a été partagée avec nous. La responsabilité de dispensateur est très importante. La version de la Bible en français courant préfère le mot administrateur. Les traducteurs de la Nouvelle Bible Second ont choisi le mot intendant. La Bible, parole de vie, parle plutôt de serviteur. La parole vivante a traduit ce mot par gérant. Je ne sais pas si vous êtes familier de la série télévisée britannique Downton Abbey, mais vous savez, le personnage de Monsieur Carson est très représentatif de la fonction d'intendant. Voici une personne à laquelle a été confiée une responsabilité au sein d'une maison et concernant toutes sortes de choses. Il ne possède pas cette maison comme un bien personnel, ce n'est pas la sienne, mais il a reçu cette confiance avec cette responsabilité. Vous et moi, nous avons reçu et obtenu cette confiance avec les diverses grâces de Dieu qu'il vous a données, que Dieu vous a données et qu'il m'a données. Et peut-être sont-elles différentes, mais nous sommes comptables devant Dieu comme un intendant l'est en raison de la grâce qui nous a été donnée. Éphésiens chapitre 4. Allons à nouveau à Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 29. Éphésiens chapitre 4 verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Avons-nous bien pensé à ces mots? Autrement dit, ce que je dis est censé être un don pour ceux qui écoutent, et je ne suis pas supposé prendre le temps de rechercher s'ils sont dignes ou non de les entendre. Ce qui m'est demandé, c'est simplement de leur parler d'une certaine façon, parce que c'est à mes yeux une valeur fondamentale. Colossiens chapitre 4, verset 6. Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Bon, je sais bien que vous avez lu ce verset de nombreuses fois, et certainement à chaque fois que d'ailleurs nous lisons ce verset, nous avons tendance à nous concentrer sur le rôle du sel. C'est une bonne chose, mais combien de fois pensons-nous à la première partie du verset ? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. La grâce, un don donné de par la bonté du donateur, sans le moindre égard envers la dignité du receveur. Et assez souvent, je dois le reconnaître, je ne suis pas à la hauteur. Alors, frères et sœurs, où en sommes-nous ? Chacun d'entre nous. La grâce, notre façon de considérer la grâce, est supposée changer notre façon de vivre. Comme je l'ai déjà dit, il y a quelques 130 passages rien que dans le Nouveau Testament auxquels nous pouvons nous reporter les uns après les autres et voir ce mot grâce expliqué de façon à nous donner une compréhension plus profonde de ce que Dieu attend de nous. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6 et lisons le premier verset, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Il y a une instruction ici pour vous et moi. Une instruction qui nous dit comment nous devons répondre à cet incroyable don venant de Dieu. Nous ne devons pas recevoir la grâce de Dieu en tant que valeur périssable, qui ne dure pas, pour une valeur qui ne serve à rien. Son intention est de nous changer dans notre façon de vivre, dans notre manière de vivre. La grâce, c'est bien plus qu'un simple terme religieux que nous ne comprenons ou pas, ou que nous comprenons. C'est un concept très vaste qui place une grande responsabilité sur chacun d'entre nous, tout en réservant un formidable espoir pour l'avenir de chacun d'entre nous. Revoyons maintenant le passage que j'ai mentionné au début de ce message. Il se trouve dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18. 2 Pierre chapitre 3 et le verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Vous et moi, nous sommes appelés à croître à la fois dans la connaissance et dans la grâce. Nous sommes appelés à croître dans la capacité à donner, dans les perspectives pour donner, dans l'esprit de donner, tout comme Dieu donne. Donner de par la bonté du donateur, sans le moindre égard envers la dignité du receveur. Ce doit être un mot d'ordre dans notre vie. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, tout ce en quoi nous espérons, c'est le résultat de la grâce de Dieu. Et cela devrait nous inspirer pour devenir de meilleurs serviteurs, alors que les jours font suite les uns aux autres, alors que les jours s'égrènent. Allons finalement dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Dernière référence aujourd'hui, 1 Pierre, chapitre 5, et le verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Notre Dieu est un Dieu de toute grâce, et nous, si nous voulons devenir ses enfants, alors nous devons apprendre à vivre et à penser comme lui vit et pense. Je vous souhaite à tous et à toutes un agréable sabbat.